Vous écoutez, on lit pour vous.
Des citoyens achètent une forêt en Mauricie pour la convertir en corridor écologique. Un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 13 septembre 2024 dans Le Devoir. Il y avait la menace de coupes forestières, celle d'une érablière commerciale, sans compter le risque de construction résidentielle. Devant ces périls qui guettaient la forêt presque intacte près de chez eux, une vingtaine de citoyens de la Mauricie ont eux-mêmes acheté le boisé afin de le conserver tel quel. Plus qu'un simple morceau de territoire, ce terrain fraîchement protégé crée un corridor écologique dans la région. Pas moins de 2,5 km² de forêt qui jouxtent le parc national de la Mauricie ont ainsi été placés à l'abri de tout développement. Denis Trépanier était présent à la conférence annonçant la création de ce nouveau parc protégé dans la région. Il représente les 22 donateurs qui ont déboursé collectivement 650 000 $ pour acheter ce terrain. On parle beaucoup d'éco-anxiété. Quand tu fais quelque chose comme ça, ça aide à guérir, explique-t-il. Pour atteindre la cible de Québec de protéger 30 % de son territoire, on ne peut pas juste compter sur les terres publiques et les aides gouvernementales. Les citoyens doivent s'y mettre pour atteindre nos objectifs. Ce bout de forêt n'est pas comme les autres. Il forme un corridor écologique qui relie le parc national de la Mauricie à la réserve naturelle de la tourbière du lac à la Tortue, la plus grande tourbière des basses-terres du Saint-Laurent. Il relie ainsi deux secteurs déjà protégés et était essentiel pour la protection de la biodiversité, explique la chargée de projet pour Conservation de la Nature Canada, CNC, Gabrielle Cochon-Déry. C'est beau de dire qu'à l'intérieur du parc, on a des milieux naturels en santé. Mais si les milieux autour ne permettent pas le déplacement, il manque une pièce du casse-tête. C'est important que ce noyau-là ne soit pas isolé du reste. Les animaux ont besoin de se déplacer pour se reproduire, faire des échanges génétiques, s'alimenter. Son équipe s'occupera de gérer cette nature presque intacte nouvellement acquise en payant les taxes et en assurant un minimum de surveillance contre le braconnage. Depuis le début de l'initiative Corridor écologique de CNC en 2017, de plus en plus de groupes de citoyens se proposent pour acheter un terrain et le remettre entre les mains de biologistes et surtout de dames nature. Un tel corridor est en train d'émerger entre le parc national du Mont-Tremblant et le parc national de Plaisance en Outaouais. Ces conservateurs planchent aussi sur des corridors naturels entre les différentes collines montérégiennes. On a toutes les structures pour permettre la conservation à long terme. L'achat de territoires par les particuliers, c'est dans notre arsenal d'outils pour protéger la nature, indique Gabrielle Cochon-Déry. Pour l'instant, la forêt que traverse la rivière Shawinigan préservera l'habitat de plusieurs espèces au statut précaire, dont des salamandres, la tortue des bois et des oiseaux comme le goguelu et la sturnelle des prés. Une forêt, 22 raisons différentes. Parmi les 22 donateurs qui ont permis l'achat de territoire en Mauricie, il y avait 22 raisons différentes de participer, avance Denis Trépanier. On retrouve parmi eux des enseignants, de retraités, des médecins, autrement dit des personnes avec toutes sortes de portefeuilles. Lui voulait conserver ce terrain d'observation d'oiseaux. Pour d'autres, c'était par altruisme social ou encore pour léguer du concret aux générations à venir. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va arriver? Alors là, on fait de quoi? Les gens sont ressortis de ça avec une immense fierté. Les convaincre n'a pas été le plus compliqué, selon lui. Quand j'ai commencé à contacter les gens pour savoir s'il y avait moyen d'intercepter la vente de ce territoire-là, certains étaient moins capables que d'autres. Ce n'est pas très rentable. Le but, ce n'est pas de le revendre, mais de le protéger. Le plus difficile fut de trouver la bonne formule administrative pour gérer le territoire. Après plusieurs tentatives, c'est l'offre de CNC de s'occuper du site qui a tout débloqué. Tout citoyen qui souhaiterait conserver un milieu près de chez lui devrait contacter un organisme de conservation de sa région, conseille d'ailleurs Gabriel Cochon-Déry. Protéger des corridors écologiques est devenu l'une des grandes priorités des groupes de protection de la nature ces dernières années. C'était « Des citoyens achètent une forêt en Mauricie pour la convertir en corridor écologique », un texte de Jean-Louis Bordeloup, paru le 13 septembre 2024 dans Le Devoir.
Des écoles tardent à payer des artistes. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 16 septembre 2024 dans Le Devoir. Des artistes embauchés pour donner des ateliers dans les écoles primaires du Québec déplorent d'avoir à se battre pour se faire payer. Auteurs, artistes peintres, illustrateurs, ils participent au programme La culture à l'école, dans lequel ils sont invités à présenter leur démarche créatrice aux élèves. Selon le site du ministère de l'Éducation, les honoraires sont versés aux artistes et aux écrivains dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Or, une dizaine d'artistes ont confirmé au Devoir qu'il fallait compter en général plusieurs mois pour se faire payer à la suite d'un atelier donné, en plus de devoir composer avec une lourdeur bureaucratique chronophage. Difficile de s'en sortir. L'illustratrice et autrice jeunesse, Cara Carmina, intervient dans des écoles depuis 7 ans. En entrevue, elle confirme les retards systématiques de paiement. « J'ai beaucoup de difficultés à me faire payer. Il faut constamment relancer, courir après notre argent », explique celle qui compte une vingtaine de livres à son actif comme illustratrice. J'ai déjà un niveau de vie difficile comme artiste. Si, en plus, je dois courir après mon salaire à cause de problèmes de bureaucratie, c'est dur de s'en sortir. C'est ma principale source de revenus, alors je n'ai pas le choix de continuer, mais c'est assez décourageant, dit Chloé Varin. En 2023, Cara Carmina a donné 160 ateliers dans les écoles primaires du Québec. Selon elle, seulement 30% des écoles qu'elle a visitées l'ont payé à temps. La moitié l'ont payé dans les 6 à 8 semaines après un courriel de rappel. Quant aux 20% restantes, elles l'ont payé dans un délai de 2 à 3 mois après l'envoi de plusieurs courriels de relance. Visiter les écoles et travailler avec les enfants est une chose merveilleuse pour moi et je m'y consacre à 110%. Je trouve terriblement triste que mon travail et celui des artistes du répertoire de la culture à l'école ne soient pas valorisés comme ils devraient l'être, déplore-t-elle. C'est ce manque de considération perçu qui l'a poussée à publier un cri du cœur sur sa page Instagram en juin 2024. Sa publication a reçu de nombreux commentaires de collègues disant constater également des retards systématiques. Un problème de bureaucratie. Face au délai de paiement et à la lourdeur administrative, l'autrice jeunesse Chloé Varin, qui a l'habitude de rencontrer près de 4000 élèves par an, s'est demandé pour la première fois s'il n'était pas temps de passer à autre chose. « C'est ma principale source de revenus, alors je n'ai pas le choix de continuer, mais c'est assez décourageant », explique-t-elle au Devoir. « Ce que je déplore, c'est la charge mentale de devoir toujours être à nos affaires, de faire des suivis rigoureux dans l'espoir d'être payé. Il faut constamment relancer les directions d'établissement, téléphoner, contacter les enseignants, etc. Être payé dans des délais raisonnables, c'est tout ce qu'on demande. Nous, les artistes, nous ne roulons pas sur l'or, souligne-t-elle. Le Devoir a recueilli d'autres témoignages d'artistes. Tous font état de la même réalité et de l'épuisement des artistes participant au programme La culture à l'école. L'autrice, Marie Demers, affirme par exemple avoir dû piocher dans sa marge de crédit pour se maintenir à flot en attendant des chèques des écoles dans lesquelles elle intervient. elle dénonce un grand niveau de mépris du milieu de l'éducation à l'endroit des petits contractants. Selon ce qu'a pu constater Chloé Varin au fil du temps, ces retards de paiement seraient avant tout dus à un problème de bureaucratie, chaque école ayant ses modalités et ses façons de faire. Elle propose d'ailleurs que chaque participant au programme puisse avoir un numéro de membre pour faciliter les choses et diminuer les délais. Ça permettrait de réduire la lourdeur administrative en plus de protéger nos données personnelles, avance-t-elle. Responsabilité de chaque école. Jointe par Le Devoir, la Fédération des centres de services scolaires, CSS du Québec, n'a pas voulu commenter la situation, ses membres étant autonomes dans leur gestion administrative. Le ministère de l'Éducation affirme pour sa part être au fait de cette situation, mais rappelle lui aussi que la responsabilité de la gestion de ces contrats appartient aux organismes scolaires. Je ne vous cacherai pas qu'il est possible que ce soit déjà arrivé que certains paiements soient retardés, notamment en raison d'un changement de direction d'école en cours de mandat ou parce que, lors d'un premier contrat, l'artiste devait fournir différentes informations ayant occasionné des délais supplémentaires. Dans tous les cas, ce type de situation devrait être exceptionnel et ne devrait pas représenter la norme, écrit quant à lui le CSS de Laval. Il assure insister auprès des écoles sur l'importance de procéder au paiement des artistes avec diligence, soit dans un délai de 30 jours. Le CSS de Montréal affirme pour sa part que la très grande majorité des factures des artistes avec lesquels il fait affaire ont été payées dans le délai imparti dans les dernières années. Certaines circonstances peuvent avoir entraîné des retards, concède-t-il néanmoins. La précarité des artistes. Pour la directrice générale de l'Union des écrivaines et écrivains québécois, l'UNEC, Geneviève Lauzon, la situation est connue depuis longtemps, même si elle peut varier d'un CSS à un autre. En entrevue au Devoir, elle déplore la grande précarité dans laquelle sont plongés ses membres participants. Le programme La culture à l'école représente une stabilité de revenus pour les écrivains dont la majeure partie des revenus vient d'activités connexes, pas de la vente des livres, explique-t-elle. Pour un travailleur autonome, ces retards sont donc vraiment problématiques. On parle de problèmes pour déclarer les taxes, pour les déclarations de revenus. Les artistes sont toujours en attente de comptes à recevoir. Signe de la précarité qui touche les artistes intervenant dans les écoles. Avant que le tarif des participants au programme La culture à l'école soit augmenté, il y a 2 ans, il n'avait pas été revu depuis la création du programme en 1999. Il est aujourd'hui de 536 $ par jour. C'était « Des écoles tardent à payer des artistes », un texte de Catherine Lalonde paru le 16 septembre 2024 dans Le Devoir.
Peut-on guérir de l'asthme? Un texte de Catherine Anfield paru le 15 septembre 2024 dans La Presse. Question d'une lectrice, Julie Bouchard, de Châteauguay. Est-ce qu'on peut guérir de l'asthme? J'en souffre de manière chronique depuis 35 ans. J'ai beau m'entraîner chaque jour, ça me mine l'existence. Et j'ai toujours besoin de mes fichues pompes. Si l'asthme s'est développé pendant l'enfance, donc avant la puberté, oui, il peut disparaître spontanément, répond le docteur Simon Couillard, pneumologue et professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. C'est le cas d'environ 20 % des gens dans cette catégorie, dit-il. Il y a des gens qui ont une histoire très convaincante d'asthme en très jeune âge. Quand ils sont plus âgés et qu'on fait des tests de fonction respiratoire, ils n'ont plus d'asthme, vivent une vie normale et non pas nécessairement de risque de récidive, résume le docteur Couillard. Le pronostic est particulièrement bon chez les garçons et chez ceux qui souffraient d'une forme plus légère d'allergie. Ces rémissions surviennent habituellement dans la période de transition entre l'enfance et l'adolescence. Comment les expliquer? Différentes hypothèses existent, explique le professeur. Les enfants, d'abord, peuvent avoir de la difficulté à passer les tests, ce qui fait que leur diagnostic est supposé plutôt qu'avéré. La puberté demeure aussi un moment charnière dans le développement de la maturité immunitaire, ajoute-t-il. Une maladie chronique. Chez les gens qui ont développé l'asthme à l'adolescence ou à l'âge adulte, les chances d'en guérir sont malheureusement très, très, très faibles, indique le docteur Simon Couillard. Ces personnes peuvent avoir de longues périodes d'accalmie pendant lesquelles l'asthme est contrôlé, mais la condition demeure sous-jacente. L'asthme, rappelle-t-il, est une maladie chronique. Le pneumologue donne l'exemple des épisodes d'asthme d'orage, dont celui survenu à Melbourne, en Australie, en 2016. Une association particulière de facteurs environnementaux, vent, pluie torrentielle, taux de pollen élevé, a envoyé une grande quantité de particules allergènes dans les airs et un raz-de-marée de patients aux urgences, en proie à des crises d'asthme. Certains d'entre eux ne prenaient pas de pompe et se considéraient en rémission. Au total, 10 personnes en sont mortes. Un bon diagnostic. Lorsqu'on se questionne sur ses chances de rémission de l'asthme, la première chose à faire est de se demander si on a été diagnostiqué de façon appropriée, estime le docteur Couillard. Des études, dont une menée au Canada, suggèrent que le tiers des adultes et des enfants diagnostiqués avec l'asthme n'en souffrent pas. Il arrive, par exemple, que les symptômes de bronchite soient confondus avec ceux de l'asthme. Pour confirmer un diagnostic d'asthme, on utilise un test respiratoire qui consiste à provoquer une mini-crise d'asthme à l'hôpital. D'autres tests, plus spécialisés, sont utilisés en Europe. La solution est d'avoir un bon diagnostic, poursuit le chercheur. En 2024, souligne-t-il, les personnes asthmatiques n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une pompe tous les jours. En concertation avec des professionnels de la santé et en fonction de leur profil, des patients peuvent bénéficier de pompes à la fois bronchodilatatrices et anti-inflammatoires, indique Simon Couillard. Ça permet de protéger les gens face à des événements extrêmes comme l'asthme d'orage, explique-t-il. Le sport peut-il être une solution? L'activité physique est salutaire à plusieurs égards et les personnes asthmatiques ont le feu vert x 1000 pour bouger, indique le docteur Couillard. Si une personne fait une crise d'asthme à l'effort, dit-il, c'est signe que son asthme est soit mal contrôlé, soit mal diagnostiqué, il faut consulter. Mais malheureusement, l'exercice physique ne guérit pas l'asthme, même si on en fait beaucoup. Le sport de haut niveau pourrait même induire l'asthme, souligne Simon Couillard. Des données montrent en effet que les nageurs et les fondeurs de haut niveau développent davantage d'asthme à cause du stress mécanique sur leurs voies respiratoires et de l'assèchement des voies respiratoires. Enfin, tout ce qui est cigarette, cannabis et même cigarette électronique peut aggraver des cas d'asthme, rappelle le pneumologue. Et avec le réchauffement climatique et les incendies de forêt, on peut aussi s'attendre à ce que davantage de personnes développent l'asthme dans les prochaines années, conclut-il. Les médicaments biologiques. Il existe une nouvelle catégorie de médicaments contre l'asthme. Les médicaments biologiques qu'on administre par injection. On les utilise chez les patients qui présentent de l'asthme sévère avec beaucoup d'inflammation, indique le docteur Couillard. La grande question de recherche en ce moment est la suivante. Pourrait-on administrer ces médicaments plus tôt dans la maladie pour induire la rémission avant que l'asthme ne provoque des dommages? Simon Couillard invite d'ailleurs les gens intéressés à participer à un projet de recherche à contacter son équipe. C'était « Peut-on guérir de l'asthme ?» un texte de Catherine Anfield, paru le 15 septembre 2024 dans la presse.
Jeux paralympiques, des athlètes fiers rentrent au bercail. Un texte de Jean-Philippe Arcan, paru le 9 septembre 2024 dans La Presse. Ils ont vu leur vol être retardé et ont dû patienter de longues minutes devant le carrousel avant de pouvoir récupérer leurs bagages, mais l'attente en a valu la peine. Quelques athlètes de l'équipe paralympique canadienne étaient de retour au pays lundi midi à l'aéroport Montréal-Trudeau après une dizaine de jours de compétition à Paris. Un séjour fructueux au cours duquel le Canada a récolté 29 médailles, dont 10 d'or. Un petit drapeau unifolié par-ci, une chaleureuse accolade par-là, l'atmosphère était aux réjouissances dans l'aérogare. Les sourires étaient nombreux chez les athlètes, heureux de renouer avec leurs proches et de rentrer au bercail. La nageuse Tess Ratliff, par exemple, n'a pas caché son excitation à l'idée de dormir dans son propre lit et manger sa propre nourriture. La performance canadienne lors de ces Jeux s'est aussi avérée une source de satisfaction pour l'Ontarienne, médaillée d'argent aux 200 mètres 4 nages SM7 et de bronze aux 100 mètres brasse SB7. Le pays a en effet remporté 9 médailles de plus au total que lors de l'édition précédente à Tokyo en 2021. Nous avons eu quelques jeunes médaillés qui en étaient à leur première année. Nous avions des vétérans qui ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Je suis honnêtement très fière du Canada, a-t-elle résumé. Des démons exorcisés. Au sein de la petite délégation débarquée à Montréal lundi, Aurélie Rivard était de loin la plus sollicitée. On peut comprendre, la nageuse revient chez elle avec un trio de médailles en poche, dont l'or aux 400 mètres style libre S10. À son entrée dans le terminal, l'athlète de 28 ans s'est empressée d'échanger un câlin avec ses parents, qui s'était d'ailleurs rendu à Paris pour assister à ses compétitions. Même la mairesse de son Saint-Jean-sur-Richelieu natal, André Bouchard, s'était déplacée pour lui offrir un bouquet de fleurs et un certificat de fierté de la part de la municipalité. Elle fait rayonner Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est un exemple pour les jeunes, a décrit l'élu. Malgré ses succès, la principale intéressée a parlé des Jeux de Paris comme de montagnes russes. Au niveau personnel, il y a eu de bons et de mauvais coups. Mais aussi, ça a été tellement une belle expérience. Paris a vraiment bien fait au niveau de l'organisation, a-t-elle indiqué. Rivard s'est évidemment dite heureuse d'avoir pu remporter un troisième titre olympique consécutif aux 400 mètres, son épreuve de prédilection. Mais surtout, d'avoir réussi l'exploit après avoir dû abandonner lors des championnats du monde de 2022. « Ça a été extrêmement difficile de revenir de ça », a-t-elle admis. « J'ai dû littéralement réapprendre comment être à l'aise dans l'eau, ce qui a été éprouvant et difficile. Pour moi, ça démontre aussi tout le travail en amont que j'ai fait sur moi-même pour être capable de me représenter et de retrouver un peu cette confiance que j'avais pour le 400 mètres, a poursuivi Rivard. Sa mère, Nadine Galipeau, a, quant à elle, dû retenir quelques sanglots en décrivant à quel point elle était fière de sa fille. Elle a bagarré et elle est finalement arrivée à ses fins. Ce sont deux années qui n'ont pas été faciles. Le 400 mètres libre, elle croyait qu'elle serait incapable de le refaire. C'est difficile pour une mère, a-t-elle soufflé. Hommage au public français. Hormis leur succès sportif, les athlètes canadiens ont aussi été marqués par l'accueil que leur a réservé le public français. Signe, selon eux, que l'intérêt pour les sports paralympiques est à la hausse. Et tout un contraste, disons, avec les Jeux de Tokyo, disputés devant des gradins déserts en pleine pandémie. Honnêtement, la foule française était débile, a lancé Tess Radcliffe en insistant sur ce dernier mot. Guichets fermés, des stades remplis, à la natation, c'était fou! Je n'ai jamais eu des foules aussi grosses, bruyantes et excitées. Les Français ont répondu présent. J'étais à Rio en 2016 et les Brésiliens étaient certainement bruyants et fous. Mais c'était un plus petit public, a-t-elle enchaîné. Et à Tokyo, il n'y avait personne. Paris a montré à quel point les gens veulent être là et qu'ils sont divertis en regardant notre sport. On a vraiment réalisé la valeur de ce qu'on a perdu à Tokyo en ayant des jeux un peu plus froids, un peu moins chaleureux, avec toutes les restrictions, a pour sa part observé Rivard. Là, j'ai vraiment remarqué à quel point tous les athlètes voulaient être là et étaient contents d'être là. Les gens aussi, ils étaient contents de nous voir. En espérant pour ces athlètes que les Américains seront tout autant en délire à Los Angeles en 2028. C'était « Jeux paralympiques, des athlètes fiers rentrent au bercail ». Un texte de Jean-Philippe Arcan, paru le 9 septembre 2024 dans La Presse.